France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Dalia. Le vendredi, c'est une émission en deux parties. Le retour de terrain, tout d'abord, la journaliste Clotilde Ravel, qui revient de Namibie, nous raconte la ruée vers l'or noir dans ce pays où d'immenses gisements ont été découverts en mer. Et puis ensuite, la table ronde, il sera question du Liban, que son président Joseph Aoun appelait il y a quelques jours à l'ONU à ne pas oublier, alors que les Talibanais tentent de reprendre le contrôle sur les groupes armés, à commencer par le Hezbollah. Un défi de taille pour un pays fragilisé par la guerre avec Israël déclenchée il y a tout juste un an. Nous en discuterons avec nos invités, Agnès Levallois, présidente de l'IREMO et chargée de cours à Sciences Po, et avec Karim-Émile Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et à Sciences Po, chercheur associé à l'IRIS. Une discussion co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde.
France Culture. Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Clotilde Ravel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le média en ligne Africa Intelligence. Vous écrivez également pour la revue 21, pour qui vous signez un long reportage en Namibie. La fièvre du pétrole s'est emparée de ce pays d'Afrique australe peuplé de seulement 3 millions d'habitants. Si la géologie des terres namibiennes n'a jamais été prometteuse, d'importants gisements ont été découverts au large de ses côtes, le golfe d'Orange, dont les eaux froides sont traversées par de forts courants, fait figure de nouvel Eldorado de l'or noir, à condition que le forage, techniquement difficile dans cet endroit, y soit rentable. Et c'est ce qu'espèrent des hommes d'affaires et des fonctionnaires qui prospectent et qui démarchent depuis près de 20 ans, des pionniers qui pourraient se faire voler la mise par les géants du secteur, comme par exemple Philippe Stein, que vous avez rencontré en Namibie. C'est un Sud-Africain installé sur place. Il faut raconter que lorsqu'il commence à miser sur le potentiel pétrolier, Philippe Stein, eh bien, dans les années 2010, il est bien seul à ce moment-là.
Oui, j'écris dans le reportage qui fait presque figure d'illuminé avec les quelques autres qui croient beaucoup au potentiel de la Namibie, dont vous avez dit dans l'introduction que la roche n'avait pas été exploitée en termes pétroliers, parce qu'il y a des mines en Namibie, notamment de l'uranium exploité par des Chinois et des Français. Mais c'est vrai qu'en termes pétroliers, alors qu'on a l'Angola juste au-dessus, qui fait partie des principaux producteurs du continent, la Namibie avait toujours été considérée comme un pays qui ne valait pas le coup. Jusqu'à ce qu'on parvienne à parfaire des techniques de forage en eau ultra profonde. Là, on parle de profondeur de 3000 mètres de fond.
Ce qui est un record. Hein.
Ce qui est un record. Jusqu'ici, la Total Energy souhaite développer son gisement qui s'appelle Vénus à 3000 mètres de fond. Jusqu'ici, le maximum, c'était 2900 mètres. Donc, on est quand même sur des besoins de prouesses techniques. Et moi, mon objectif initial, quand je suis partie là-bas, c'était d'essayer de comprendre comment naît un état pétrolier, grâce à qui ou à cause de qui, ça dépend de comment on voit les choses. Et j'ai rencontré Philippe, justement, dans une petite station balnéaire sur la côte à Swakopmund. Et je me suis dit, cette histoire-là, elle vaut la peine d'être racontée.
Alors, sa société en 2014, qui s'appelle Rhino Ressources, obtient plusieurs concessions. En mer, que valent-elles à ce moment-là?
Alors, quand Philippe arrive en Namibie, il serre la main des autorités, il dit voilà, moi ça m'intéresse. Les autorités sont tellement contentes d'avoir un investisseur qui arrive qu'elle cède le bloc en échange de promesses de forage. C'est des forages qui coûtent très cher, donc c'est aussi normal que dans un pays qui est pas considéré comme attractif au début, l'arrivée soit pas trop chère, sinon il y aurait vraiment personne. Et du coup, Philippe prend ses petits blocs et puis ensuite démarre cette aventure d'exploration avec ses partenaires.
Mais est-ce que ça veut dire, du fait de ces concessions donc, qui sont très peu chères, dont le coût d'entrée est assez bas au début, est-ce que ça veut dire que l'État namibien lui-même ne croit pas dans son potentiel ?
Alors, au sein de l'État namibien, il y a des personnes qui font la promotion du bassin d'Orange depuis des années. Notamment une personne que je cite également dans le reportage et que j'ai rencontrée, Emmanuel Mulunga, qui a été vraiment le VRP de la Namibie dans toutes les conférences internationales où il était accueilli, mais en marge. Je veux dire, la Namibie, c'était le petit pousset, la personne qui est toujours là. Bon, on dit que possiblement des choses existent, etc. Et lui, il prêche dans le désert pendant des années et des années. Chaque année, il revient aux conférences. Il y a une grande messe qui s'appelle Africa All Week, toutes les années qui est organisée au Cap, en Afrique du Sud. Et il revient et dit, si, en Namibie, on a du potentiel, venez. Il essaye d'attirer les investisseurs jusqu'à ce que ça marche au bout de 20 ans.
Alors, en 2017, les majors du pétrole commencent effectivement à investir en Namibie. En 2022, ce sont les premières découvertes, mais ce qu'on appelle la décision finale d'investissement, le FID, qui est une sorte de Graal, n'a pas encore été prise. Pourquoi ?
Alors, la décision finale d'investissement, elle contraint les opérateurs à engager vraiment les investissements. C'est la partie où on n'est plus dans les mots, on est vraiment dans l'action. Mais pour pouvoir prendre une décision finale d'investissement, il faut que tous les différents facteurs économiques, les négociations avec l'État aient été bouclées. Et dans le cas de la Namibie, ça prend du temps partout. Dans tous les pays pétroliers, ça prend du temps. Total Energy, en l'occurrence, parce que c'est a priori eux qui sont les plus près de signer cette FID, a besoin d'être sûr que son investissement vaut le coup, parce que derrière, il a évidemment des actionnaires à satisfaire.
Et alors, vous disiez, cette rentabilité, elle n'est pas du tout assurée, étant donné la profondeur des gisements, mais aussi un site qui est, écrivez-vous, traversé par des courants marins, il y a aussi la présence de gaz. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de la rentabilité, ce sont des forages qui sont aussi potentiellement dangereux pour les hommes qui vont l'exploiter, mais aussi pour la nature? Est-ce qu'il y a des risques de marée noire qui sont importants dans cette zone?
Alors, le risque pour la biodiversité, partout où on a des forages pétroliers, malheureusement, il est présent. Ensuite, la question technique, elle est également importante, parce que c'est très coûteux. Plus on va profond, plus c'est coûteux, évidemment. Donc, il faut s'assurer que le rendement, il soit derrière à la hauteur. Là, le cap que s'est fixé Total, c'est de descendre en termes de coût de production en dessous de $20 le baril. Et à ce moment-là, selon eux, ça vaut le coup de chercher à forer. Et ensuite, pour ce qui est du risque de marée noire, là, on est en général, c'est plutôt les tankers qui transportent le pétrole qui sont sujets à ces risques-là.
Alors, je reviens à notre figure de pionnier, le Sud-Africain Philippe Steyn, qui a donc monté cette société, qui a obtenu des concessions, puis finalement qui s'est, à la suite d'un conflit, retrouvé écarté de la propre société qu'il avait fondée. Aujourd'hui, il a trouvé une place dans une entreprise de logistique. Il faut expliquer que quand un secteur pétrolier se développe, il y a derrière tout un écosystème de sous-traitance qui se met en place, et ce sont des contrats à plusieurs millions, plusieurs milliards, je ne sais pas.
C'est l'unité de mesure. C'est l'unité de mesure dans le pétrole, les millions. Et Philippe, c'est vrai que c'est un peu notre pétrolier malchanceux dans cette histoire. Il a cru au potentiel de la Namibie dès le début. Il a investi et puis voilà, sur fond de brouille avec les autres actionnaires, il a été évincé des choses, mais il est resté en Namibie parce qu'il veut pas renoncer à ce rêve-là qui le tient. Sa petite amie l'a rejointe, une Française. Ils vivent vit désormais à Swakop Moon. Et c'est vrai que c'est un peu étrange de le rencontrer là-bas dans cette station balnéaire, tout le temps plongé dans le brouillard, parce qu'on est sur la côte, dans laquelle il fait pas extrêmement beau. Alors c'est la Namibie est un pays dont les paysages sont magnifiques, mais on a un peu l'impression d'une personne qui s'est enterrée entre guillemets à la poursuite de son rêve là-bas. Et lui, il trouve que ça vaut le coup.
On peut peut-être d'ailleurs prendre le temps de décrire cet endroit, Swakop Moon. C'est une petite ville que vous décrivez aux rues sablonneuses et aux maisons à l'architecture germanique. Swakop Moon, est-ce que c'est un lieu qui est particulièrement révélateur de l'héritage historique, d'un certain héritage historique, en fait, à savoir l'époque où la Namibie était une colonie allemande?
Oui, absolument. On voit beaucoup à Swakop Moon de retraités allemands qui portent des Birkenstock. Il y a des magasins également de ces sandales qui sont un peu qui représentent un peu entre guillemets la culture allemande. Et oui, ça dit beaucoup parce qu'en fait c'était le lieu de villégiature de la bonne société coloniale allemande qui se rendait sur la côte au temps de la colonisation. Cette ville porte encore beaucoup les stigmates architecturaux de cette colonisation, bien sûr.
Voilà, il y a les stigmates architecturaux, mais il faut aussi rappeler que l'histoire de la colonisation allemande en Namibie est émaillée de massacres, de génocides même. Je vous laisse nous rappeler, tout début du XXe siècle, ce qu'il se passe, et un événement qui a été reconnu il y a quelques années, par l'État allemand.
L'Allemagne a fini par reconnaître sa responsabilité dans des massacres perpétrés au tout début du XXe siècle contre les populations Herero et les Nama. La Namibie a été une forme de laboratoire, en fait, de ce qui s'est ensuite passé en Europe, avec des camps de concentration, on peut pas les appeler autrement, sur une île qui s'appelait Shark Island, l'île aux requins, et dans lesquelles des populations, donc Herero et Nama, étaient réduites décimée et réduite aussi en esclavage en termes de, enfin voilà, des camps de travail et des camps d'extermination. C'est un génocide qui a été oublié. L'Allemagne a mis très longtemps à reconnaître. C'était 2021, le moment où ils ont reconnu leur responsabilité dans ce qui peut être, c'est ce que dit la déclaration, considéré aujourd'hui comme un génocide et qui revient enfin sur le devant de la scène, même si des réparations sont en négociation depuis des années et que pour l'instant la Namibie n'a perçu aucun euro, aucun dollar de ces promesses-là.
Et aujourd'hui, quelles sont les attentes de la population vis-à-vis des gisements de pétrole dont on parle? Est-ce qu'il y a au sein de la population une fièvre? Est-ce que la fièvre des pionniers que vous décrivez a gagné le reste de la population?
La fièvre, elle touche beaucoup le petit monde du pétrole, qui est un monde masculin, très refermé sur lui-même, qui se parle à lui-même aussi. La population générale, c'est encore très loin, toutes ces promesses de peut-être des barils qui vont un jour arriver. En plus, comme on est sur des localisations très très lointaines en mer, loin des yeux de la société civile, on n'a pas de, pour l'instant, sur le paysage namibien, sur la terre, l'impact du pétrole, en fait, c'est juste quelques sociétés pétrolières qui ont installé leur petit QG ça et là, avec le logo Total Energy, le logo Shell, et pour l'instant c'est encore très abstrait pour la plupart des gens.
Et il y a pourtant quelques figures, quelques hommes d'affaires, par exemple Knowledge Cathy, qui est quelqu'un qui est né dans les townships et qui a fait fortune grâce à la revente de licences pétrolières. Donc il n'y a pas encore d'exploitation du pétrole, mais il y a déjà des personnes qui sont arrivées à en tirer un profit. C'est quelqu'un de très connu en Namibie, donc ça veut dire qu'il y a quand même l'émergence de l'idée que ce secteur va pouvoir profiter peut-être à une petite partie de la population, mais voilà, comment est-ce que cela est perçu par les Namibiens?
Pour l'instant, elle n'a pas profité à grand monde, cette manne pétrolière qui n'en est pas encore une, mais qui en fait brasse beaucoup de millions, même avant même que le premier baril soit sorti, puisqu'on achète des blocs, on les revend, on fait des profits. Exactement. Total Energy a fait un forage ici qui est une découverte. Ah bah, directement, tout autour, les autres blocs prennent de la valeur. Donc voilà, Knowledge Cathy, c'est un de ceux, effectivement, un des rares Namibiens à qui l'industrie a déjà profité, avec Emmanuel Mulunga, donc, qui a été le promoteur du bassin d'Orange pendant des années et qui finalement ensuite a été rétribué. Et ils sont passés au statut de petite superstar locale, parce que dans un pays où le salaire moyen il est d'environ 860 $, tout de suite, avec des moyens comme eux en ont, ils sortent du lot. Et du coup, leurs faits et gestes sont décryptés par la presse locale et on a un côté presque people en fait autour d'eux.
Sachant qu'il y a aussi des enquêtes qui ont été menées sur l'un comme sur l'autre, des accusations ou des suspicions en tout cas de corruption.
Absolument. Et d'ailleurs, Emmanuel Mulunga, depuis la sortie de l'article, a été interpellé pour une histoire de voiture qui lui aurait été achetée par un autre homme d'affaires, etc. Et le fond de tout ça, c'est vraiment l'origine des millions que l'un et l'autre ont pu accumuler au fil des années, alors même, encore une fois, qu'on n'a pas une seule goutte de pétrole qui est sortie, mais ils se sont achetés des voitures rutilantes qui font parler, évidemment, et la commission anticorruption namibienne a commencé à se pencher sur le sujet et à dire, attendez, ça, d'où ça vient? Comment, avec un salaire de fonctionnaire, vous avez réussi à acheter tant de maisons, tant de voitures, sur lesquelles, en plus, ils font floquer, et ça, c'est un détail qui est amusant en Namibie, on peut faire floquer sa plaque d'immatriculation. Donc, Emmanuel Mulunga, par exemple, il a écrit « Oil One » sur la sienne et « Knowledge », il a écrit « Knowledge ».
Vous disiez tout à l'heure que la fièvre du pétrole n'avait pas encore atteint le grand public ou la population. Et le pays est présidé depuis avril 2025 par une nouvelle dirigeante, Netumbo Nandi Ndaitwa. Est-ce qu'on sait si elle a fait des investissements pétroliers étrangers en Namibie une priorité? Est-ce qu'on sait aussi s'il y a du débat sur ce que la Namibie pourrait faire d'éventuels revenus pétroliers? On sait que la rente pétrolière est quelque chose qui est toujours à double tranchant pour un pays.
Netumbo Nandi Ndaitwa, elle est une grande promotrice de l'industrie pétrolière. Ça s'est vu notamment parce que elle a délaissé depuis qu'elle est arrivée tout ce qui est les initiatives en termes d'hydrogène vert. La Namibie, pendant longtemps, notamment sous le précédent président Hage Geingob, se voulait terre promise de l'hydrogène vert, etc. Et elle a mis un peu le holà là-dessus en se concentrant donc sur les mines et sur le pétrole. Ensuite, avant son arrivée, on avait déjà un fonds souverain qui avait été mis sur pied pour administrer les futurs revenus du pétrole qui devraient normalement arriver. On parle...
Pour qu'il n'échappe pas totalement à l'état namibien et ne profiter qu'aux investisseurs étrangers, c'était ça l'enjeu.
Exactement. Et elle est partisane d'une ligne assez dure de 30% de participation dans chaque bloc, etc. Ce qui fait évidemment bondir les investisseurs étrangers qui disent non mais attendez, c'est nous qui prenons les risques, etc. Mais en fait, la Namibie a vu comment ça s'est passé dans les autres pays africains qui sont en fait eux qui s'avancent davantage vers leur crépuscule pétrolier qu'autre chose. Et la Namibie, elle est au tout début, juste avant la bascule, et elle se dit, il faut qu'on réussisse à faire autrement, parce qu'ailleurs, on a vu comment ça s'était passé, la malédiction des ressources, etc. Donc la Namibie essaye de faire autrement, mais ce n'est pas facile dans un secteur où on a autant d'intérêts, autant d'argent, de faire en sorte que tout le monde soit transparent et clean dans la façon de gérer les choses.
10 ans après les accords de Paris, alors que les alertes scientifiques se multiplient pour dire qu'il faut arrêter d'exploiter les hydrocarbures si on veut maintenir le climat au niveau où il est actuellement, est-ce que cette question fait partie du débat? Est-ce qu'il y a aussi des voix en Namibie qui disent qu'il faudrait peut-être laisser ce pétrole là où il est?
Alors, le narratif principal, c'est de dire, attendez, vos grandes directives du monde occidental pour nous dire de pas exploiter notre pétrole, c'est un peu facile. Vous avez tous azimuts investi dans les énergies fossiles, et là, au moment où nous on y est, on devrait pas le faire. Donc, le discours anti-énergie fossile, il est pas le principal moteur en Namibie. D'autant que, comme je le disais précédemment, la société civile s'est pas encore emparée de ce sujet parce que c'est lointain et que le premier baril de pétrole, s'il arrive dans les temps, ce ne sera pas avant 2030. Donc ça reste lointain.
Merci beaucoup Clotilde Ravel. Votre reportage Namibie en attendant le pétrole, illustré par Benjamin Van Black, est à lire dans le dernier numéro d'automne de la revue 21, qui est actuellement en kiosque et en librairie. Et l'article est aussi à retrouver sur le site de la revue. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup.
Merci.
Qui interprète un de ses derniers titres, Wana Eda, du nom d'un quartier de Windhoek, la capitale de Namibie. Il est 11h20, vous écoutez Culture Monde, seconde partie de notre émission, direction le Liban.